L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Queyrouga. Emmanuel Mainel, bonjour.
Bonjour.
Donc on va parler avec toi aujourd'hui de ton rapport en tant que croyant animiste à l'écologie. Alors tu t'autodéfinis comme animiste, qu'est-ce que c'est ?
Je m'autodéfinis comme animiste parce que justement je n'ai pas envie de m'autodéfinir, je n'ai pas envie de me définir. Il y a un danger dans les étiquettes et donc les appartenances qui pour moi... Je trouve ça limitant, alors que moi, justement, je suis à la fois pour la religion et pour l'écologie. Pour moi, ce sont des démarches d'ouverture. Et donc, je dis animiste parce que, en général, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Et donc, ça leur évite de me coller une étiquette, si je disais chrétien ou musulman. Sachant que je fréquente aussi bien les églises que les mosquées, que les temples. À Paris, je vais très souvent dans un temple hindou. J'aime beaucoup les mots. Enfin, je vais très souvent dans les églises chrétiennes parce que c'est en français ce qu'il y a le plus et je m'y sens très bien. Mais j'aime beaucoup aussi les mosquées, par exemple, pour des aspects très pratiques. Par exemple, l'islam, c'est vraiment une religion très pratique, justement. Quand on prie, on peut se laver. C'est très écolo puisqu'on peut se laver avec. Si on respecte les principes, on peut se laver avec moins d'un litre d'eau. J'ai fait de la voile, du bateau. On est très sensible à cette notion d'eau, d'économiser l'eau, même croyant ou pas. Et quand j'ai découvert ça dans l'islam, on pouvait laver tout le corps avec moins d'un litre d'eau. Je trouve ça intéressant. C'est un endroit, quand on fait la prière musulmane, je fais un peu de yoga, je retrouve des postures de yoga. C'est une gymnastique. Donc on se lave, on fait de la gymnastique. Et c'est un lieu de vie qui est très confortable, puisque dans beaucoup de pays... Les gens, ils vont y faire la sieste entre deux, quand ils ont du temps libre. Et on imagine moins ça dans une église ou dans une synagogue.
Même si l'été, c'est pas mal, une église pour se rafraîchir, s'asseoir, quand on fait du tourisme.
Et une église, il y a d'autres... on va y trouver d'autres choses. Ce que je voulais dire, c'était en confort pratique. C'est pour moi, il y a quelque chose de très pragmatique dans l'islam. Mais je ne vais pas défendre l'islam par rapport à d'autres religions, parce que justement, pour moi, toutes les religions... Moi, j'ai envie de dire que toutes les religions se valent, mais par contre, elles sont très différentes. Et j'utiliserai peut-être une métaphore, une analogie avec le sport, c'est que on peut faire déjà différentes disciplines sportives. On peut faire de l'athlétisme et puis, je sais pas, des arts martiaux, si on a le temps. Ceci dit, ça va être des pratiques différentes qui vont développer quelque chose de différent en termes physiques. Sur le corps. Après, dans le comportement, je pense que si justement on fait du sport avec intelligence, on va chercher la même chose, c'est-à-dire un épanouissement physique et intérieur. Et pour moi, les religions, c'est pareil. On ne peut pas faire toutes les religions, il y a des pratiques qui s'excluent les unes des autres, ne serait-ce qu'en termes de temps, d'horaire ou de pratique. Mais c'est différentes gymnastiques, on en choisit une comme une autre, pour justement travailler sa spiritualité. Et si on sent qu'elles se valent toutes, c'est que on peut faire de l'athlétisme ou de la natation. Le but, c'est de trouver l'épanouissement dans le corps, et si plus, tant mieux. Et pour moi, les religions, c'est la même chose.
Alors, pas dans le corps, mais plutôt du côté spirituel, alors.
L'analogie est le sport pour le corps, et pour les religions, transposer, c'est exactement ce qu'on fait sur le corps avec le sport, on le fait sur l'être tout entier, je dirais quand même. Et donc, effectivement, le spirituel. Tous ces endroits sont intéressants, puisqu'il y a une recherche spirituelle. Et pour moi, c'est ça qui est important. Et la question par rapport, justement, le lien avec l'écologie, c'est le lien avec un tout, avec le tout spirituel. Moi, justement, je suis de formation scientifique et quand je vois comment la science est utilisée dans notre monde, on a le même rapport à la science qu'à d'autres époques on avait avec les religions. Une théorie, elle se construit avec des axiomes. C'est-à-dire des choses qu'on ne démontre pas, c'est des choses qu'on admet. Je suis dans la foi au sens dans j'admets.
Alors, c'est assez surprenant. Donc, tu es d'un peu toutes les religions, donc animiste, on va dire, croyant, pratiquant, militant à Greenpeace et scientifique. Tout ça, ça doit surprendre beaucoup de gens, non ? C'est quand même un cocktail peu habituel chez une seule personne.
Je ne me rends pas compte de ça. Sachant que pour moi, les mathématiques, c'est très intéressant. Il y a tout le jeu avec l'infini qui est intéressant parce que justement, on aborde de façon, on va dire, intellectuelle et analytique. Des choses qui sont justement, on va dire, du processus divin. Pour moi, Dieu n'est pas que vous approuvez. Dieu, tu as un constat, une définition en fait. Tout le monde en fait est croyant, au sens tout le monde vit dans un... Enfin, j'ai conscience de vivre dans un univers dont je fais partie. Comment j'appelle cette entité ? Bon, pour moi, c'est ça, la définition de Dieu. Après, effectivement, quelles sont les propriétés de cette entité ? Je parle un langage peut-être très mathématique ou très abstrait, mais... Et très souvent, la démarche, elle est inverse. C'est que les gens voient certaines propriétés, ils disent « Dieu, c'est ça, c'est celle et cette propriété ». Et puis, ils oublient peut-être d'autres. Et puis, ils voient un voisin qui n'a pas retenu les mêmes propriétés. Il dit « Ah, mais ce n'est pas le même Dieu ». Mais je connais des chrétiens, hein, à Chrétiens Unis pour la Terre, je devrais peut-être pas le dire, qui me disent « Les musulmans, ouais, quand même, ce n'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, ils n'ont pas le même Dieu, il s'appelle Allah ». Je dis « Mais Allah, c'est en arabe le mot pour désigner Dieu ». Un arabe chrétien, en arabe, va dire le Dieu chrétien, il s'appelle Allah. Rien que sur des détails de langue, on va en faire des différences sans voir que justement c'est la même chose. Et j'ai l'impression que très souvent, justement, on rentre dans des polémiques simplement parce qu'on ne s'est pas mis d'accord sur les définitions, sur le sens qu'on met derrière un mot. Et c'est pour ça, moi, je suis toutes les religions, comme j'ai envie de dire tout le monde. Tout le monde vit dans un monde... alors peut-être pas religieux, mais une spiritualité, c'est sûr, on vit dans un monde, pour finir avec justement la religion, on va dire, entre guillemets, actuelle en France, je fais du conte aussi, j'imagine pas dans le conte une histoire aussi magique que celle du Big Bang. Au début, il n'y avait rien, un point dans lequel tout l'univers était concentré et il explose et il donne cette diversité, la biodiversité, cette multiplicité de formes de vie et de cette richesse, cette diversité dans l'unicité. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. À la limite, mon approche de spirituelle, c'est ça, c'est que c'est un monde qui est à la fois un, par essence, hein, c'est un univers, on dit l'univers, on peut imaginer des multivers, mais même ces multivers, on va encore les voir dans une autre... encore comme une plus grosse entité, mais encore une autre entité. Et en même temps, dans sa manifestation localement, une diversité incroyable. Et souvent, on oppose les deux, en y voyant des paradoxes, alors parce qu'on ne fait pas le lien entre les deux. J'ai envie de prendre un autre exemple, mais je ne sais pas si c'est parlant pour tout le monde, c'est un truc très amusant. On peut construire ça avec des enfants de 2 ans, 2, 3 ans, c'est un anneau de Möbius. Un anneau de Möbius, c'est les anneaux simples. Je prends une bande de papier, par exemple, je la recourbe en faire un anneau. Si je la vrille une fois, je colle quand même les deux bouts. Ce qui fait que quand je regarde localement, je vois toujours deux faces opposées. Mais si je suis une face avec le doigt, pour les gens qui connaissent l'anneau de Möbius, ça leur parlera, je me rends compte que je vais faire ces deux faces, finalement, sans lever le doigt. J'ai un objet qu'un enfant de 2 ans peut construire. Rien de magique, hein. Enfin, c'est ça la magie, et qui a à la fois deux faces et une face. Et si je reste dans le local, sur un petit centimètre de mon objet, je vais voir deux faces opposées, je me dis cet objet a deux faces opposées, il a deux faces. Et si j'essaie de voir la globalité, je vais voir que cet objet, il a une seule face. Et les deux sont là, sont pas contradictoires, c'est juste la réalité quand je vois le truc plus grand et... On pourrait parler de ça, du bien et du mal. Justement, plus j'élargis et on peut revenir justement aux écosystèmes. C'est on vit dans un tout et c'est de vivre avec ce tout, d'être en cohérence avec ce tout. Et l'écologie, c'est juste la façon... l'écologie, c'est l'étude de ces équilibres. Et on va dire l'attitude écologique, c'est de respecter, d'entretenir ces équilibres dont on fait partie. Et donc, de façon très égoïste, déjà, pour que nous, on puisse y subsister. Et puis de façon... moins égoïste, mais je crois que c'est une citation que j'aime beaucoup du Dalai Lama. Il disait « Soyez égoïste, pensez aux autres. » Donc de façon moins égoïste, pensez aux autres espèces vivantes, animales et végétales. Donc peut-être c'est ça aussi que j'aime rappeler en disant que je suis animiste. C'est que, quand je dis que Dieu est partout, Dieu, tout est Dieu, ça parle à toutes les religions, hein. Mais quand on dit, ouais, il y a... Mais c'est aussi dans les textes, hein, on l'a entendu ce matin, Dieu est dans chaque entité vivante, voire non vivante, même un caillou, hein, dans Saint Paul. Oui, parce que c'est cette totalité, il y a une présence donc de cette... De ce tout dans chaque partie. Là aussi, ça peut paraître un paradoxe. Alors, pour un mathématicien, c'est pas du tout un paradoxe. On fait des bijections entre plein d'ensembles. Et donc, on peut très bien faire une bijection entre une partie d'un ensemble et la totalité de cet ensemble. Quand on dit une bijection, c'est vraiment en équivalence une partie d'un ensemble, une droite par exemple, hein, qu'on va dire infinie. J'en prends un segment de droite, c'est un petit bout de cette droite. Mais il est lui-même infini, puisqu'on peut le découper en autant de morceaux qu'on veut. Et en fait, c'est une même nature d'infini. C'est en ce sens qu'on peut établir une bijection entre une partie et un truc plus grand. Ce qui nous paraît aberrant avec des objets... Je ne sais pas si c'est parlant avec, pour tout le monde, mais c'est simplement pour dire on voit des paradoxes là où il y a juste quelque chose à admettre.
Finalement, ta vision donc, du monde, elle est assez pacifiste. Elle permet d'éviter les conflits.
Alors... L'idée, elle est très pacifiste et je me rends compte que justement, c'est un travail aussi à faire sur soi. Et quand tu disais les gens se disputent parce qu'ils donnent, enfin, j'ai dit les gens se disputent parce qu'ils ne donnent pas la même définition, on peut avoir un désaccord et se disputer ou pas. C'est qu'au-delà, il y a un premier problème, c'est se mettre d'accord sur des définitions. Pour les scientifiques, c'est la base de tout. Hein. On définit tout, c'est pour ça qu'on peut avancer. Moi, j'ai pas envie de dire qu'il faut tout formaliser dans notre vie de tous les jours. Faisons confiance aussi un peu à notre intuition, le fait qu'on ait à peu près la même notion des objets. Mais si on se rend compte qu'il y a un désaccord, il faut peut-être clarifier justement de quoi on parle. Et après, c'est que il y a aussi l'attitude. On n'est pas d'accord et je suis bienveillant envers l'autre. On va essayer de se comprendre. Et par contre, on n'est pas d'accord et puis l'autre, non, c'est un sale con qui me prend, qui empiète sur mon territoire. J'ai pas envie de me mettre d'accord et je vais rentrer dans le conflit. Et effectivement, c'est cette attitude pacifiste. Moi-même, hein, j'ai des colères, j'ai des mouvements violents et il faut que je travaille là-dessus. Et je pense qu'on a tout ça et il faut qu'on travaille tous là-dessus.
In a cage match with instinct tossed, regressive, wretched, stopped, reread the sketches, no rocks off of the restless,
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 restless. Once we broke a tinker cleanly and struck core, sticking stone nebulous, one chord from flowering interconnectedness, assured of a happening.
And in about 4 seconds, the teacher will begin to think, wedged in between when he take a swing and when he blink. Hard as me try, me never be the man, cause keep taking my stand as passive instead of bland.
Beyond any what's begin, however, before it was what's or never would have been occurred,
what's
ever been born again.
Who's the one that's gonna die for
body
this?
Move.
And who's the one that's gonna fry
body
for this?
Move.
And who's the one that's gonna try
body
to kiss
move.
Life smack dead on her lips?
Nobody
her apocalypse.
Ends. It's shy, tranquil, gray.
Each individual emotion.
A call so precious, these and
however,
nothing left.
However, traces of hatred found in the fossils and erosion.
You know, finish finer than truth.
When the lake get lit fire and the flames hit eye level.
Giving no logic but purpose to prove.
I'll be scorned, torn by storm inside, asking me why I settled.
He lay down in the tall grass and prepared to wait patiently. Soon the sounds of distant, sweet music came to his ears. He looked up in the direction from which they came and saw a small object descending from above. At first it looked like a mere speck, but as it came down, the music became plainer and sweeter.
Oh, how they stifle, siphon emotion, eye motion, eye motion. Most live in disembowelment, a vowel movement is best measured by
how many books you burn, how many scholarly notions
cascading
through morbid emotions, window pane
evading,
chased by fading, echoing, decaying masculines, masked within candles and incense, glasses seeping, condescending sentence. Afterwards, a final antidote for petty anecdotes. Swing fist before two lips alone.
No hope for those who ponder, wandering through cells brought forth by useless electrodes and modes of weakness, weakness of the movement of roads. Your will to intake and downing measures the pleasures of performing and executing ballads prearranged on ledger form. A catalyst, cataclysm, fallacy, fortitude, medulla, menacing, medicine, flushing,
spiraling into the shallow depths of thoughtfulness.
Best cast upon the liberated, jaded Renaissance man.
Man, I once had an idea, but it didn't get me anywhere. Read the art of war when I should have been out fighting. Why is it the masses on exploding so-called great thinkers until they die? And why they live in fear of the fighters, afraid to leave their inside?
Talking, talking, walking in circles, slowly assembling the faux pas way of thought.
But all thought is faux pas.
Good point brought to the table of man or myth, imploring, bumping up, demanding the process of leaping before jumping.
I say take a leap of faith. Besides, nobody would have knew the authors if they didn't pick up a pen and action. And acting got me more than imagining. The soul lies, words only count in assholes and elbows.
Holds a moving question for eternal value and mental redemption, inducing actions for future thought process exemption.
I need not thought, but when a father impulses its nature, while my hands collect dust, I recollect a loss of lust.
Justement, la question de la violence et de la non-violence, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le mouvement écologiste et dans les luttes actuelles. Il y a un réel débat entre les gens qui disent « il y a urgence et fini la non-violence, maintenant il faut vraiment passer à une phase plus active ». Il y a ceux de la deep ecology, l'écologie radicale, qui disent « maintenant il faut tout casser ». J'imagine que ce n'est pas ta vision. Et pourtant, à Greenpeace, c'est des modes d'action assez direct.
Alors, justement, première règle, je ne suis pas mandaté par Greenpeace pour parler de Greenpeace, mais je peux donner, donc, à titre personnel, mon expérience de Greenpeace. Effectivement, je peux quand même parler de trois valeurs fondamentales qui sont dans les statuts, d'ailleurs, de l'association en France et puis dans d'autres, dans le monde. C'est un réseau d'associations, en fait, hein, Greenpeace, à travers le monde. Chaque pays, plus ou moins, ayant... ayant constitué une association. Dans nos statuts, il y a trois valeurs qui sont fondamentales. Alors, il y en a une que, même à Greenpeace, on passe un peu sous silence. Il y en a beaucoup disent, elle est implicite, c'est l'action collective. Mais elle fait partie des statuts qui sont déposés, donc en préfecture, l'action collective. Et je pense que c'est pas innocent. On le voit encore beaucoup maintenant. Effectivement, moi, pour le premier, j'ai beaucoup de travail à faire là-dessus. Tout seul, on avance plus vite, on est tenté. Ensemble, on va plus loin. Et effectivement, et c'est plus sûr. Et plus durable, hein, on parle de durable. Et en fait, nos valeurs sont aussi nos méthodes à Greenpeace. Donc, il y a cette action collective. Il y en a une autre qui est l'indépendance, avec deux volets. L'indépendance financière. Donc, on n'accepte que des dons de particuliers, à rentrer d'argent qui viennent de quelque structure qu'elle soit. Donc pas de parti, pas de religion. Donc j'ai des éthiques. Sans être schizophrène, hein, pour moi, c'est juste deux modes d'action différents.
Pas d'entreprise non plus et pas de pouvoir public.
Aucune institution. Alors, ça peut être des particuliers qui peuvent donner beaucoup à l'occasion d'un legs ou des choses comme ça. Enfin, beaucoup, ça sera rarement autant qu'une entreprise. Hein. Et finalement, ça nous différencie d'associations qui sont tout à fait honorables, comme le WWF ou d'autres qui, elles, ont des partenariats avec les entreprises. À la limite, ça peut être un complément parce que on a toujours l'espoir aussi d'amener ces entreprises à des comportements plus vertueux, les prendre au pied de la lettre, vous associer à nous, mais donc vous devez... Après, ça nous enlève une liberté de parole. À Greenpeace ou, je crois, Oxfam, d'autres associations comme ça, les Amis de la Terre, il me semble, on a un souci très important d'indépendance et de crédibilité. Et cette crédibilité, donc, justement, elle va se vivre à travers ces trois valeurs, qui sont trois méthodes. Hein. L'action collective, c'est aussi de la méthode. L'indépendance, elle se traduit en termes de méthode, justement, par rapport à notre financement. Et enfin, la dernière que j'aborde, mais c'est peut-être la première en termes de celle qu'on met en premier en avant avec tous nos militants, c'est pour moi un incontournable à Greenpeace, enfin l'indépendance aussi, mais la non-violence, on insiste peut-être beaucoup plus là-dessus, parce que c'est peut-être pas la plus facile non plus, c'est ce que tu disais par rapport à l'écologie radicale. Moi, le premier, hein, on est tenté, il y a des moments où on en a marre, on a envie de tout envoyer balader. Moi, ce que je constate, bon, je ne suis pas historien, mais ce que je constate dans les, récemment, on pourrait dire déjà, même sans remonter à l'Inde de Gandhi, il a réussi à libérer plusieurs centaines de millions de personnes de la colonisation par une action non violente. C'est pas parfait, il y a la partition entre le Pakistan, l'Inde, etc. Il n'a pas tout réussi, mais il a quand même évité peut-être des bains de sang par rapport à des guerres d'indépendance comme les Français ont pu mener en Algérie ou je ne sais pas. Et quand on voit ce qui se passe, ce ne sont pas des exemples parfaits non plus, mais les révolutions de velours en Tchécoslovaquie, ou moi, un truc qui m'a surpris, c'est l'Afrique du Sud. C'était une poudrière. On aurait pu penser à un bain de sang, les Noirs qui prenaient le pouvoir, un besoin, un désir, j'ai envie de dire, un besoin de vengeance, enfin un besoin de... Et ça ne s'est pas passé comme ça. Alors bon, ça tourne mal parce qu'il y a la corruption avec des gouvernements qui s'installent dans la corruption. Mais il y a au moins cet avantage, sans que c'est réglé évidemment, les inégalités, loin de là. A contrario, si on regarde ce qui se passe en Irak et en Libye, entre parenthèses, deux pays où donc sont intervenus les États-Unis, les pays occidentaux militairement, je me pose une question. Apparemment, on intervient en Irak, en Libye. On n'intervient pas en Syrie, on n'est pas intervenu en Bosnie ou à la marge. Et apparemment, le seul point commun que je vois par rapport à ça, c'est que c'est des pays où il y a du pétrole et les autres, il n'y en a pas. C'est que voilà, y a des gens qui ne s'embêtent pas avec la non-violence et j'ai un besoin urgent, j'ai besoin. Le pétrole est vraiment peut-être le produit le plus vital dans notre économie industrielle et capitaliste. Je suis dans le court terme, j'ai du besoin de pétrole, j'interviens. Si, au lieu de la non-violence, ça serait nos économies, ben, j'essaie de me passer de pétrole. Et donc je ne vais pas faire la guerre en Irak ou en Libye et tout détruire. Tu vois, par rapport à la non-violence, en fait, ces deux exemples nous montrent qu'on a tout détruit et les gens vivent plus mal qu'avant. Ils ont gagné une liberté politique qui ne leur sert à rien, mais ils n'ont pas la liberté du quotidien, c'est-à-dire la sécurité. Ok, ils peuvent peut-être mieux s'exprimer, exprimer leurs idées, mais en même temps, ils ont peur à chaque coin de grue, parce qu'il y a la criminalité. Et c'est le cas délicat. Justement, à quel point il faut soutenir un dictateur qui, évidemment, n'est pas ce qu'on souhaiterait, mais qui, en même temps, maintient de l'ordre et donc une relative sécurité. Et c'est peut-être un des premiers besoins. Et voilà. Et donc, le changement, pour moi, il doit se faire progressivement, en douceur, progressivement. Alors, en douceur, c'est autre chose. La non-violence, effectivement, alors, on prend le cas de Greenpeace, c'est une valeur fondamentale à Greenpeace. Et ta question, là, si j'ai bien compris, c'est Greenpeace ne paraît pas si non-violent que ça, c'est ça ?
Il peut être vécu violemment par les gens, en fait, même si on prône la non-violence. Donc, c'est le mode d'action des ONG comme Greenpeace, quoi.
Ouais. Effectivement, si la violence, c'est que j'évite toute confrontation et j'accepte tout, effectivement, d'agir contre quelqu'un, on est déjà dans la non-violence, dans une forme de violence, une forme de confrontation. Alors, justement, qu'est-ce que la confrontation non-violente ? On ne donne pas de coups, mais ça va aussi dans le vocabulaire. C'est-à-dire qu'on ne provoque pas les gens, on parle, j'allais dire, respectueusement. Il y a toutes ces formations à la communication non-violente. La non-violence, elle est aussi dans le langage, elle est dans le langage corporel. On ne cherche pas la provocation pour la provocation, on cherche à interpeller, à faire réfléchir et à amener les gens à coopérer. Non-violence, c'est ça. Si idéalement on arrive à coopérer le plus tôt possible, nous c'est idéal, on ne cherche pas des actions d'éclat. Je ne vais pas dire c'est désespéré, c'est parce qu'on est monté un cran, parce que la personne en face, je n'ai même pas envie de dire l'adversaire, je fais de l'aïkido. En aïkido, on ne parle pas d'adversaire, on parle de partenaire. Ça peut être très physique, mais c'est un sport non-violent, l'aïkido, alors que c'est très physique. Et une piste, pour moi, c'est un peu la même chose.
Alors très bien, donc Emmanuel, je voudrais finir avec toi sur ce que tu disais un peu en début d'entretien. Donc tu es mathématicien, tu vois aujourd'hui la science comme une nouvelle religion ?
En fait, il y a les principes et il y a la pratique. La science telle qu'elle est vécue par le grand public, oui, elle est vécue de façon religieuse. Alors vous avez un mot qui est intéressant en français, c'est le mot comprendre. Quand tu regardes l'étymologie de comprendre, c'est prendre avec. Et donc là, forcément, on ne peut pas tout démontrer. C'est un bon mécanisme, hein, d'un point de vue mental. Si on devait tout démontrer, on ne ferait rien. On passerait son temps à démontrer les choses. Il y a un moment, il faut construire. Donc, après, justement, je veux avoir des critères pour choisir ses croyances et ses valeurs. Mais on est... voilà, on est amené à accepter. Pour répondre à la question, c'est l'attitude des gens par rapport à la science qui est religieuse. C'est-à-dire qu'on nous fait gober n'importe quoi. Enfin, moi-même, avant, j'étais consultant en organisation, plutôt dans le milieu bancaire. On fait dire n'importe quoi aux chiffres, sur la façon dont on les tourne, sur le vocabulaire qu'on va employer, comment on met quelque chose en évidence. Et tout ça avec une apparence de rationalité. Mais après, qu'est-ce que j'en fais de ces chiffres? Comment je les présente? Pour moi, l'humain reste profondément dans l'irrationnel, mu en grande partie par son inconscient, enfin ses atavismes, hein, le sexe, le territoire, les ressources, l'écologie. Hein. Les gérer, c'est l'économie, les partager, c'est le social, et puis les protéger, pour aller gérer, déjà, il faut les protéger, c'est ce qu'on va appeler, entre guillemets, l'écologie, enfin la protection des ressources. Et notre attitude vis-à-vis de la science, oui, c'est... Alors, ce que je voulais dire par rapport à la religion, mais là, c'était presque plutôt en termes cosmogoniques, ou mythologique, je trouve que c'est très intéressant la cosmogonie que induit la science aujourd'hui, la création du monde pour simplifier. Et donc actuellement, on est dans Big Bang, avec on se pose la question du Big Crunch. Alors c'est amusant parce qu'il y a des textes hindous qui répondent déjà à ça. Ils disent que le monde matériel est une suite de Big Bang et de Big Crunch. Ils appellent ça la respiration de Brahma. L'origine de notre univers actuel, hein, matériel, c'est le Big Bang, une explosion. Il y a trois scénarios possibles, dont un qui s'appelle le Big Crunch, qui est une implosion. Les théories scientifiques, elles sont aussi issues de notre imagination, plutôt de nos référents. Il y a deux points que je trouve très intéressants, qui sont en lien direct avec les autres religions. C'est donc ce Big Bang. On a tous été ensemble. Et il y a un autre, en physique quantique, on parle du phénomène d'intrication, c'est que deux particules qui ont été en lien à un moment restent en lien, même si elles sont aux extrémités de l'univers. Et c'était, qu'est-ce qu'une religion, hein, reliée à ce qui m'entoure et à moi-même, à ce tout dont je fais partie, c'est donc avoir conscience, pour moi c'est ça, hein, le monothéisme qui est présent dans l'animisme, hein, dans les premières religions. Cette notion d'unité qui est importante, hein, par rapport au monothéisme. Cette notion d'unité, c'est que tout est lié, hein, ce qu'on peut dire aussi maintenant, tout est lié, tout est interdépendant, qui implique moralement. Et phénomène d'intrication, hein, ça c'est la science actuelle, a priori non religieuse, qui dit tout est interdépendant. Ça veut dire que quand je fais quelque chose, ça a des impacts ailleurs. Voilà, c'est ces deux notions qu'il y a un tout avec sa diversité, cette diversité dans l'unicité. Je crois que c'est un peu plus ou moins la devise de l'Union européenne, d'ailleurs. L'unicité, pardon, et la diversité. Parce que c'est ces deux notions, effectivement, complémentaires, mais intriquées. Et justement, cette intrication qui fait que quand je fais quelque chose... Ça pose aussi la question de la liberté individuelle. En étant un monde, la liberté individuelle, elle se pose chez les gens qui sont riches, quoi. Quand on est dans un collectif, on se rend bien compte déjà que la liberté, bah, c'est les règles qu'on est obligé de prendre pour vivre ensemble, hein. Et plus les ressources sont contraintes, plus il va y avoir de règles, bah, parce que plus il va y avoir besoin de gérer au plus fin les ressources.
Il va y avoir de solidarité.
Et plus il va y avoir de solidarité. Moi, je suis bluffé sur l'hospitalité. Encore récemment, on en parlait au camp. Des gens qui ont voyagé en Turquie, dans des pays comme ça, ils me parlaient de la Grèce. Moi, j'avais vécu comme ça, enfin, sur la route. J'avais le souvenir, mais en Grèce comme en Turquie, des gens, ils partageaient un appartement à pas nombreux. Et puis, ils t'accueillaient quand même chez eux. En France, en Allemagne, on a des maisons avec des chambres, des chambres d'amis, etc. Ah, mais je ne peux pas l'accueillir, la chambre est encombrée par des bouquins ou je ne sais pas quoi. Alors que d'autres, ils vont se mettre dans le canapé sur le salon et puis te laisser un autre bout de... Et comme tu dis, moins on en a, plus on va partager. Plus on en a, plus on se dit, oh, ça va être compliqué de partager.
Moi, je crois qu'on a bien compris là, le lien entre religion et écologie, oui. Et que tout est lié, en fait. Pour toi, ça a l'air tellement limpide et simple de relier même la science et les mathématiques à tout ça.
Ah oui, pour moi, effectivement. En fait, c'est deux... ces deux fond, c'est des, ce fondement de pour moi c'est ça en fait le religieux, c'est cette conscience enfin de l'unicité, c'est peut-être un mot dangereux, de ce lien dans tout ce qui existe, c'est peut-être ça qui est le plus important.
C'était l'ours et la carotte, écoutable sur internet. Bathroom.